Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Bonjour tout le monde, moi c'est Isabelle Hébert et je suis médecin de famille au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Bonjour tout le monde, moi c'est Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS.
Comment ça va?
Ça va très bien. Vous autres?
Un peu malade, mais ça va, on survit.
Donc, troisième et dernier épisode de notre série sur les migraines.
Oh yes!
Qu'est-ce que tu veux dire? Oh yes!
Oh yes, c'est le dernier.
Seigneur, ça on l'a pris pour toi ce sujet-là.
Oh non, 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 ça c'est pas vrai.
On s'est dit que ça allait être des petits épisodes faciles, là, parce que c'est pas trop long.
Ça fait je sais pas combien de temps qu'on avait ce sujet-là de proposer puis qu'on le repoussait. Là. À cause de moi, probablement.
Je sais pas. Fait que dans le premier épisode, on se rappelle, on a parlé des généralités sur la migraine, du traitement pharmacologique et non pharmacologique aigu de la migraine. En passant, depuis qu'on a fait l'épisode, clairement parce que j'ai fait certaines recherches là, sur les internets, mon algorithme m'agresse avec des publicités de céphalie, le cossin de stimulation de nerfs dans le front.
Le petit appareil là, qui on a
c'est
l'air
c'est pas un peu lui qui donne l'air de faire un AVC, non, c'est un autre. Mais, je suis tanné d'avoir des publicités de ça. Combien de temps ça va durer? Parce que eux, là, by the way, ils n'ont pas fait de toune, rien. Là, c'est comme vraiment straight comme annonce. Là.
C'est plate, là.
On est loin du Jubilia ici.
Bon.
Y a-tu juste moi qui l'écoute encore régulièrement, la toune du Jubilia?
Toutes les semaines, mais ma plus vieille là, connaît la chanson. Là.
Ah, qui fiu, ça me rassure. Tellement bonne. Fait que voilà pour le premier épisode. Le deuxième épisode, on a parlé du traitement prophylactique de la migraine épisodique. Mm-hmm. Et il nous reste donc aujourd'hui la migraine chronique. Je ne suis pas Ellie, là, j'ai juste le mot avertissement. Je ne suis pas sûr que c'est le bon mot. Deux choses. La première, entre le moment où on a enregistré l'épisode sur le traitement prophylactique de la migraine épisodique et maintenant, il y a eu la publication d'une nouvelle étude randomisée, contrôlée, contre placebo de candesartan en prophylaxie de migraine épisodique.
Mm-hmm.
Étude plus grosse que ce qu'on avait jusqu'à présent.
Mm-hmm.
Puis en gros, ça a marché. Ça a donné grosso modo la même affaire.
On est-tu dans les mêmes taux de réponse, là?
Oui, les taux de réponse tournaient autour de 50% pour le candesartan contre 30% pour le placebo.
Ah oh ben toi, qui l'eût cru?
5. Ah oui.
Qui l'eût cru? Fait que ça, c'était la morale, clairement, là, de l'épisode sur les traitements prophylactiques. L'efficacité, c'est tout le temps pareil. fait que ça, c'était le premier avertissement. Le deuxième avertissement, c'est que aussi, là, pendant la séquence d'enregistrement de ces épisodes-là, il y a un guide de l'UNES qui a été publié sur la prise en charge de la migraine, au sens large, auquel j'ai participé. Là, donc, je fais partie des concepteurs, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, là, mais en tout cas, des gens là, qui ont contribué à son élaboration. On dirait qu'il fallait que je le dise. Je suis pas sûr que c'est un conflit d'intérêt parce que je ne sais pas trop quel intérêt là, j'aurais dans tout ça, là, mais ça change strictement rien sur le contenu de nos épisodes. Là. Je ressentais le besoin de partager ça là, dans une optique de transparence, là, mais c'est ça. En tout cas, si quelqu'un trouve une raison là, qui ferait que ça influence d'un bord ou de l'autre quelque chose, vous me ferez signe, là, je cherche toujours. Mais c'est dit.
La transparence est une vertu.
Paraît-il. Dis-le, tu sais, je veux dire, Oli, quand il parle d'affaires de même, il faut vraiment y donner beaucoup de crédibilité. On se rappelle, il y a une maîtrise en philosophie.
Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est le philosophe.
C'est de quoi il parle. Hein?
Juste un petit peu.
Fait que c'est ça. Fait que ben, pour le guide de l'UNES, ben, on vous invite à le consulter au besoin. Je veux dire, a priori, il ne devrait pas avoir rien de discordant. Là. Je veux dire, nous, on s'est basé sur la science disponible. Là. Fait que c'est ça qui est ça.
C'est sorti quand, ça, là?
Quelque part au courant du mois de septembre. Là.
OK. On est timé.
Fait que voilà. C'est dit. Alors, programme aujourd'hui, migraine chronique. Madame Hébert, voulez-vous nous partir ça?
On va commencer en regardant peut-être la définition de la migraine chronique, parce que moi, ça fait un bout de temps que je m'étais pas attardée à cette définition et aux critères, alors je suis certainement pas la seule. Si on retourne dans notre document de lycée HD3, qui est The International Classification of Headache Disorders, dont on a parlé au premier épisode de cette série
Une
sur la migraine.
lecture un peu aride qu'on sait pas nécessairement.
Non, non, je suis bien d'accord, je ne le recommande pas. Écoutez ce qu'on dit, puis tout va être correct.
Bon.
Donc, comment ils définissent, eux, la migraine chronique? C'est une fréquence de 15 jours ou plus de maux de tête pendant plus de 3 mois. Et les maux de tête peuvent être de type migraineux ou de type céphalée de tension. Donc, on peut avoir ici un mélange de maux de tête différents, mais on doit rencontrer les caractéristiques des migraines au moins 8 jours par mois, selon les définitions qu'on a déjà discutées là, dans l'épisode 1 où on parlait des définitions. C'est-à-dire que ça peut correspondre à des migraines sans aura ou à des migraines avec aura. Et ça, ben, 8 jours par mois pendant plus de 3 mois pour un total de plus de 15 jours par mois avec des maux de tête. Fait qu'on peut avoir des migraines plus que 8 jours, mais pour rencontrer le critère de migraine chronique, il faut que les céphalées soient migraineuses au moins 8 jours. Est-ce que vous me suivez?
En gros, faut que tu aies mal à la tête en moyenne au moins un jour sur deux.
Un jour sur deux.
Puis là-dessus, faut qu'au moins la moitié soit des migraines.
Oui.
Je fais
Ben,
des
au
mathématiques un
moins,
peu simplistes, là, mais
ouais, on
ça
comprend
ressemble
le
à ça, finalement.
concept.
Exactement. Fait que là, quand on remplit ces critères-là, puis qu'on n'a pas, que c'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic, comme on avait discuté la dernière fois aussi, ben là, on rencontre les critères de migraine chronique. Il y a
C'est
certains.
qu'une question de fréquence, dans le fond, parce que pour la partie migraineuse, c'est très exactement les critères diagnostiques habituels de la migraine.
Exactement, c'est les mêmes critères là. Si on se rappelle là, les céphalées pulsatiles unilatérales avec une douleur modérée à sévère aggravée par l'effort, blabla, nausées, vomissements, photophobie, phonophobie là, c'est les mêmes critères.
Fait que là, on pourrait se poser la question, pourquoi ça mérite d'être discuté, ça, dans ce cas-là? Pour deux raisons. La première, c'est vraiment atypique. On voit pas ça dans beaucoup de conditions de santé. Mais en fait, la fréquence, donc le fait que ce soit épisodique versus chronique, change les options de traitement, dans ce cas-ci préventif. On va y revenir. Puis la deuxième, c'est qu'en fait, beaucoup des migraines chroniques sont ce qu'on appelle, puis on va y revenir plus en détail tantôt, mais les céphalées d'origine médicamenteuse, qui aussi impliquent une prise en charge un peu différente.
Tout à fait.
Parce qu'on s'entend, c'est d'habitude pour une autre pathologie, je veux dire. Que tu l'ailles un jour sur trois ou que tu l'ailles un jour sur deux, à part que c'est plate, là, si tu l'as plus souvent, ça change pas grand-chose. All right.
Il y a certains facteurs de risque qui sont associés plus souvent à la migraine chronique. Peut-être qu'on peut juste faire un petit tour de ça avant de passer au traitement. Donc, tu le disais, là, mais la surutilisation de médicaments pour traiter les crises migraineuses et les maux de tête, c'est le facteur principal et ça fait que c'est parfois difficile de faire la différence entre la migraine chronique et la céphalée d'origine médicamenteuse. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, c'est plus fréquent chez les femmes, chez les patients qui sont aussi atteints de d'autres conditions comme le diabète, l'arthrite ou toute autre douleur chronique. Ensuite, chez quelqu'un qui aurait des fréquences élevées de crises migraineuses au cours des derniers mois, là, c'est un peu une évidence, là. Des traumas à la tête ou au cou, probablement que c'est parce que ça engendre des céphalées t'sais, plus chroniques, puis aussi l'association avec les douleurs chroniques. Quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, on sait que le sommeil est associé avec les migraines, donc quelqu'un qui a plus d'insomnie ou de problèmes autres de sommeil pourrait être plus facilement atteint de migraines chroniques.
Ici, est-ce qu'on
Finalement,
inclut encore les gens qui dorment trop ou
mais
c'est
non,
un
ça c'est ton cas
problème?
isolé, là. Ça c'est ton cas isolé. C'est pas vraiment un problème dans la vie d'habituellement dormir trop.
Aïe.
Finalement, les patients obèses, les patients qui souffrent de dépression et les patients, bon, qui malheureusement qui prennent régulièrement de la caféine. C'est sûr que si on prend régulièrement de la caféine et qu'on n'a pas de problème de maux de tête chronique, ben tant mieux pour nous. Mais si c'est un problème qu'on rencontre, ben ça peut augmenter notre risque d'avoir des migraines chroniques.
Et quel cauchemar ce serait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des migraines chroniques? Peut-être juste là, avant de rentrer dans les nuances, il y a aussi plein de points communs entre la migraine chronique et la migraine épisodique, Oli, notamment, en tout cas, à moins que tu m'apprennes quelque chose, tout ce qui est prise en charge de l'épisode aigu migraineux.
En effet. Tu sais, dans le fond, la majorité de ce qu'on a dit dans les deux autres épisodes s'applique encore en termes de prise en charge. T'sais, on identifie, minimise des facteurs précipitants, aggravants. On doit aussi parler dans le counseling de bonnes habitudes de vie. Toute la gestion aiguë est essentiellement la même, que ça soit non pharmaco ou pharmaco. À l'exception pour le pharmaco, on y reviendra que il faut porter une attention un petit peu particulière à la fréquence d'utilisation de nos traitements aigus. T'sais, tu vas en parler tantôt.
Pour les effets d'origine médicamenteuse, évidemment.
Exactement. Donc ça, c'est le ce qui est commun, là, où il y a des nuances importantes à faire, c'est plus dans le traitement prophylactique de la migraine chronique, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'études pour la migraine chronique qu'on en a pour la migraine épisodique. Puis, essentiellement, nos choix de traitement qui sont soutenus par des évidences, c'est le topiramate, on a les GEPAN, les anti-CGRP, on a le propranolol et on a le Botox. Donc, c'est assez facile de faire le tour de ces options-là. Il y a des options aussi qui sont pas tellement abordables, pas faciles d'accès au premier plan. Donc, ça nous arrive aussi, pour plein de raisons, d'utiliser des prophylaxies dont on a discuté à l'épisode précédent, sans qu'on ait des données directes en migraine chronique, mais on va quand même ici se concentrer plus sur les preuves associées avec les médicaments qui ont été vraiment étudiés en migraine chronique, mais on peut utiliser aussi hors indication, selon les cas, d'autres prophylaxies. Petit point important, tu sais, quand on parle de ces prophylaxies-là, il y a quand même certaines limitations par rapport à l'accès. Tu sais, le Botox, par exemple, n'est pas couvert par la RAMQ pour la migraine. Sinon, pour l'atogépant, puis les anti-CGRP, ils peuvent être désormais couverts en médicaments d'exception pour la migraine épisodique et chronique. Donc, avant, on avait un fameux critère qui excluait tous nos patients avec migraine chronique. C'est rendu qu'on peut utiliser ces médicaments-là en médicaments d'exception, même en migraine chronique. Ça a changé tout récemment l'intitulé du critères de médicaments d'exception. Il y a quand même encore tout le critère qu'il faut avoir essayé d'autres options. Ça reste des traitements coûteux, mais l'accès est plus facile maintenant en migraine chronique qu'auparavant.
Sur les autres options, je me souviens plus. J'imagine qu'on l'avait dit dans l'épisode précédent, mais tu sais, ça a quand même passé de 3 médicaments. Le fait que tu as essayé un antihypertenseur, un antidépresseur puis un anticonvulsivant à maintenant 2.
Oui.
L'accès est plus facile.
En effet. Ceci concluait nos petites généralités sur le traitement. On pourrait parler de chacun des médicaments.
Oui.
Première option, le topiramate. Puis là, on va beaucoup parler de la fameuse des fameuses lignes directrices canadiennes, comme on avait abordé dans l'épisode précédent, parce qu'il parle aussi des prophylaxies en migraine chronique. Donc, pour le topiramate, la revue systématique des lignes directrices canadiennes a trouvé 2 études randomisées contrôlées qui comparaient le topiramate au placebo, un total de 360 participants. Dans les 2 cas, on semblait viser des doses qui allaient de 50 à 200 mg par jour, comme pas mal en migraine épisodique. Puis quand on regardait la proportion de participants qui rapportaient une diminution d'au moins 50 % des épisodes de migraine, on avait 35 % sous topiramate, 25 % sous placebo. Ça nous donne un NNT d'environ 10.
OK. Fait, on s'entend, là, c'est quand même des données très limitées, mais puis on n'a pas de comparaison directe, mais des chiffres qui semblent en tout cas positifs, mais peu impressionnants, là, même si on les met en perspective avec les données qu'on a en migraine épisodique.
En effet. Puis, tu sais, les lignes directrices canadiennes, eux, ils ont décidé d'émettre une recommandation faible en faveur du topiramate. On sait qu'il y a des enjeux de tolérance avec ce médicament-là. On va pas refaire le tour, là, mais il y a ça à prendre en compte. Puis, on s'entend qu'en termes de qualité des évidences, ils ont jugé que ces 2 études-là étaient de moins bonne qualité que, mettons, d'autres études dont on va bientôt parler pour d'autres agents.
Parfait.
L'autre classe, c'est les anti-CGRP. Les lignes directrices canadiennes les recommandent toute la gang en prophylaxie de la migraine chronique. Puis ici, on doit l'avouer, là, la qualité des évidences est franchement meilleure que pour les autres options de traitement, en tout cas pour le topiramate puis le propranolol. Clairement, on a beaucoup d'études randomisées contrôlées contre placebo qui incluaient plusieurs centaines de patients, des études méthodologiquement plus solides, plus récentes aussi, ça s'explique. Par contre, on n'avait pas nécessairement un signal franc vers une meilleure efficacité que pour les autres prophylaxies. Quand on observe les méta-analyses des différents agents, on obtenait des taux de réponse entre 30 et 45 % avec des NNT qui tournaient entre 5 et 8 contre placebo.
Fait que même chose, ben en tout cas, similaire du moins au topiramate.
C'est ça, c'est ça.
T'sais, on peut penser qu'il y a peut-être un... Puis là, je spécule complètement, là, mais on peut penser que c'est probablement un peu plus difficile d'atteindre une diminution de 50 %, la définition du taux de réponse, si tu pars avec, je sais pas, en moyenne 12 migraines par mois versus si tu pars à 7. T'sais, pour avoir ta diminution de 50 %, il faut que tu perdes quand même pas mal plus de migraines. Là.
Mm-hmm. On extrapole, mais je pense que ça se défend là, comme,
un peu de ça,
comme rationnel. Ouais. Sinon, petit aparté, là, mais l'étude Hermès, Nico, tu nous en parlais au dernier épisode là, qui avait démontré la supériorité de l'irénumab contre le topiramate. On incluait dans cette étude-là une petite partie de participants avec migraines chroniques, seulement 10 % des patients. Puis à ma connaissance, il n'y a pas d'analyse de sous-groupe pour seulement ces participants-là. Ça aurait pu être intéressant de voir un petit peu en migraines chroniques si... Il y a un signal vers une plus grande efficacité qui ressortait aussi pour les rénumas, mais à ma connaissance, ils n'ont pas produit ces analyses de ce groupe-là. Donc, on a des données d'efficacité tout à fait similaires avec nos autres prophylaxies.
Parfait. On s'entend, là, c'est un vraiment petit sous-groupe. Là, une analyse statistique là-dessus serait probablement hasardeuse, du moins.
Exploratoire serait le terme que j'aurais utilisé. Ça aurait pu nous donner un petit signal, voir
si
quelque chose qui ressort, mais malheureusement, il n'y en a pas.
Excellent.
Sinon, autre option, l'atogépant, qui est recommandée aussi par les lignes directrices. On a une seule étude randomisée contrôlée contre placebo. C'est l'étude PROGRESS qui a comparé l'atogépant 60 mg par jour contre un placebo pour un total de presque 800 participants suivis pendant 3 mois. Donc, quand même une grosse étude, une bonne taille d'échantillon, une méthodologie solide. Quand on regardait la proportion de répondeurs, on était à 40 % sous atogépant contre 26 % sous placebo, ce qui donne un NNT de 7.
Du moins, ou un peu comme en migraine épisodique, mais en migraine chronique, visiblement, tous les traitements donnent la même affaire.
C'est ça. C'est ça.
Jusqu'à maintenant, c'est pas mal toute la même chose.
Enfin.
Puis on n'a pas d'études, par contre, pour les autres gépants. Donc, en migraine chronique, on a vraiment des études, une étude avec l'atogépant exclusivement.
Excellent.
Ça conclut pour les gépants. Le propranolol, maintenant, qui est aussi recommandé désormais par les lignes directrices canadiennes. Puis pendant longtemps, je pense qu'on l'utilisait un peu hors indication en prophylaxie de la migraine chronique. Puis on a désormais, en fait, une étude randomisée contrôlée assez récente qui vient supporter cette utilisation-là. C'est l'étude Top Pro.
Très fort. Très fort.
J'attendais Nico qui... Je te trouve pas tant enthousiaste, par contre.
Ben, je veux dire, c'est on dirait que je trouve ça fort, mais un peu botché. Dans le sens que le résultat est là, là, faut leur donner Top Pro, tu sais. Ouais, c'est du solide. Mais en termes d'originalité, on a vu mieux. Donc, mais écoute, tu sais, je donnerais facile 6 étoiles. Facile.
Je me questionne encore c'est quoi le dénominateur ici, mais.
Nico, il garoche des étoiles, on ne sait pas trop, il y en a combien.
Ben oui, on le sait, il y en a 6.
Oui, je sais, mais t'en avais combien pour leur lancer 6 étoiles, là, il t'en reste combien?
Ah, ça.
Mais attends, juste pour nous donner un barème, là, mettons la toune de Jublia, c'est combien d'étoiles?
Ah, c'est une bonne question, ça, Oli.
Le problème, c'est tu sais quoi? C'est qu'eux ne sont pas dans la même catégorie, là. Eux, c'est pas des étoiles qu'ils reçoivent, là. Eux, c'est des hommages. Tabarouette. Ça pourra jamais être égalé, ça. Fait quoi, écoute, Top Pro. Top Pro, c'est bon, c'est bon.
Donc, Top Pro, c'est une étude de non-infériorité indienne de 175 participants qui comparait le propranolol à la dose cible de 160 mg par jour au topiramate à la dose cible de 100 mg par jour. Des doses qui sont thérapeutiques qui vont dans le sens de ce qu'on voyait dans les études de migraines épisodiques. Mm-hmm. Puis en termes de résultats, on constatait pour l'issue primaire que le propranolol était non inférieur, c'est-à-dire l'issue primaire, c'était la réduction moyenne du nombre de migraines par mois. Ça donnait environ la même chose. Puis quand on regardait la réduction d'au moins 50 % des migraines, on avait des taux très similaires de répondeurs, là, 22 % sous propranolol, 17 % sous topiramate. Bémol, c'est ça. C'est ça le gros bémol. Les taux de réponse, en fait, ressemblent à ce qu'on voit souvent dans les autres études pour le groupe placebo. Mm. Mais bon, ça nous donne une option de plus, mais clairement, s'il y avait d'autres études de meilleure qualité ou qui avec des résultats différents ou disons plus convaincants, ça serait intéressant.
À suivre.
Dernière option, le Botox.
Mm-hmm.
On a deux études disponibles. On a les études Preempt 1 et Preempt 2. Je sens moins l'enthousiasme de Nico. Là.
Ouais, honnêtement, là,
là-dessus. Pas d'étoile pour ce nom-là, je pense.
Donc, pour un total de un peu plus de 1300 participants, dans ces deux études-là, on administrait le Botox aux 3 mois, selon un protocole bien établi. Là, c'est 31 injections, en fait. Donc, on comparait Botox versus placebo. Puis quand on regarde les taux de répondeurs, on est à 50 % sous Botox contre 35 % sous placebo. NNT à 7, des chiffres qui ressemblent encore pas mal à ce qu'on vous a présenté.
Toujours pareil. Je sais pas, t'es-tu rendu là, Ali? Je me suis jamais rendu là, mais comment quelqu'un s'est rendu à 31? Ben, comment quelqu'un s'est rendu à « Hey, on pourrait peut-être injecter du Botox sur la tête de la personne pour traiter ses migraines. » Honnêtement, juste là, je le sais pas. Mais 31, comme il y a quelqu'un qui avait une fiole, puis il a commencé, puis à un moment donné, il était comme... Je suis rendu à 25, mais il en reste encore un peu dans la bouteille. Je sais pas.
J'ai pas creusé ça, Nico. Puis pour les personnes qui nous écoutent, vous irez voir tous les sites en question. C'est quand même, on fait pas mal le tour de la tête, là.
Bon. Fait que ça marche. Quand même, point important à rappeler, là, parce que je suis pas sûr qu'on l'a abordé dans l'épisode précédent, ça a été testé aussi en migraine épisodique. Ça l'a juste pas fonctionné.
Mm-hmm.
Ouais. C'est vraiment que en migraine chronique à ce jour que ça a démontré son efficacité et donc que ça devrait être utilisé, j'imagine.
Mm-mm.
Fait que tu sais, au bout du compte, ben, ça rejoint beaucoup ce que tu as dit, je trouve, d'entrée de jeu, Oli. On a, somme toute, peu d'options. Puis non seulement elles ne sont pas nombreuses, les options pharmacologiques ayant démontré clairement leur efficacité dans la prophylaxie de la migraine chronique, mais pour beaucoup de patients, on arrive rapidement à court d'idées. Parce que, tu sais, là, si on refait le tour, là, le topiramate, ouais, c'est correct, OK, c'est couvert d'emblée, nanana, nanana, mais plein de patients ne le tolèrent pas. Après ça, nos anti-CGRP, ben, ils restent avec des critères de remboursement, notamment, a priori, l'utilisation de d'autres traitements prophylactiques, dont certains tu n'as pas parlé. Fait que, par exemple, les antidépresseurs, ben, en migraine chronique, on ne dit pas qu'ils n'ont aucun effet. Mais ils n'ont pas démontré leur supériorité clairement dans des études spécifiques à cette population-là. Fait que tu as des enjeux d'accès puis de coût. Même chose pour la togepant. Propranolol, OK, fine. Une option relativement simple et accessible et facile, mais certains patients chez qui, un, ça ne fonctionnera pas. On se rappelle, tu l'as dit, dans la seule étude ayant démontré l'efficacité potentielle du propranolol en migraine chronique, on parlait d'un taux de réponse de 22 %. Là. Fait qu'il en reste encore 78 % chez qui ça n'a pas donné grand-chose.
Mm-hmm.
Puis le Botox, on vient de le dire, c'est cher, il y a des enjeux de couverture, puis il y a des enjeux d'accessibilité d'administration. Fait que rapidement, pour beaucoup de patients avec des migraines chroniques, on se ramasse à court de bonnes idées. Puis, ben, tu l'as dit, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de meilleure idée? Ben, on va parfois tenter des traitements prophylactiques démontrés efficaces seulement en migraine épisodique en se disant, ben, on va essayer quelque chose.
Je veux dire, ça se justifie, c'est un traitement symptomatique aussi, là, dont on peut faire le suivi, puis on peut facilement établir l'efficacité puis la tolérance. Là.
Absolument. Absolument. Fait que ça nous amène aux céphalées d'origine médicamenteuse. Puis là, bon, pourquoi ça nous amène aux céphalées d'origine médicamenteuse? Parce que on va essayer de clarifier un peu le diagnostic, puis c'est quoi une céphalée d'origine médicamenteuse. Mais dans les faits, pour beaucoup de gens, Ben, c'est en fait la condition dont ils sont atteints alors qu'on les nomme purement comme des migraines chroniques. Fait que mettons, dans les études de migraines chroniques dont Oli t'a parlé, ça varie d'une étude à l'autre évidemment, mais au bout du compte, quand on regarde la consommation de médicaments aigus, donc de traitements là, contre la migraine qu'ils prennent, la quantité, la fréquence, puis tout ça, ben, je vais faire un gros chiffron qui est souvent rapporté dans la littérature, mais à peu près la moitié de ces gens-là qui répondent aux critères de céphalée ou de migraine d'origine médicamenteuse. Fait que dans le fond, tout ce qu'on étudie en migraine chronique, ben on l'étudie un peu de facto en céphalée d'origine médicamenteuse. Puis c'est beaucoup là-dessus, on va y revenir dans quelques minutes, mais qu'on se base pour les prendre en charge. Fait que c'est quoi une céphalée d'origine médicamenteuse? Là, il y a plein de termes, là, puis au fil des années, puis des places, puis des langues, là, ça change un peu, là. Fait que le terme le plus courant récemment, en anglais en tout cas, c'est medication overuse headache. Fait que moi, je traduis ça par. J'imagine faudrait que je dise céphalée d'abus médicamenteux, mais on dirait que je trouve que ça sonne bizarre. Fait que je vais céphalée d'origine médicamenteuse.
Parfait.
Il y a une traduction officielle dans le document français. Céphalée par abus médicamenteux.
Bon. Céphalée par abus médicamenteux. Je vais essayer. Donc, ce sont des céphalées, bon, premièrement secondaires. Si on se souvient, le premier épisode d'Isaël, on parlait de céphalées primaires versus secondaires. On est dans les céphalées secondaires. On est, comme je viens de le dire, dans les céphalées clairement chroniques. Donc, la personne doit avoir mal à la tête au moins 15 jours par mois. Puis, pour répondre aux critères de céphalées d'abus médicamenteux, c'est ça?
Oui.
Ouais. Ben, il faut que ce soit associé à la prise abusive d'analgésiques contre la céphalée. Puis là, ben, typiquement, honnêtement, là, en tout cas, moi, j'ai jamais vu d'autres cas que ça, là, ça doit exister, là, mais c'est soit des patients qui ont des céphalées de tension à la base, ou des patients qui ont des migraines, puis je dirais, ça semble être principalement des gens qui ont des migraines.
Puis j'imagine que le abusif y est défini.
Oui, absolument. Fait qu'on a nos fameux nombres de jours de prise de médicaments qu'on retrouve un peu partout. Je pense qu'il y a une espèce de consensus quand même là-dessus depuis plusieurs années. On parle habituellement d'au moins 10 jours par mois de prise de triptans, de dérivés de l'ergotamine, d'opioïdes, d'analgésiques combinés et de au moins 15 jours par mois d'analgésiques dits simples, c'est-à-dire l'acétaminophène, bonjour l'autisme, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On s'entend là. Ces chiffres-là, soyons clairs, ils sont quand même très, très arbitraires. Il y a des données, par exemple, qui suggèrent qu'il y a un risque de développer des céphalées d'abus médicamenteux avec beaucoup moins de jours que ça par mois d'opioïdes. Fait qu'à prendre avec un certain grain de sel, mais il y a l'idée, bref, d'une fréquence élevée. Puis à noter qu'on parle vraiment de jours et pas de doses. Vous allez me dire, ouais, bon, on s'en sac. Pas tant que ça. Notamment si on prend l'exemple typique, c'est-à-dire les triptans. Ben, mine de rien, si par exemple, toi, dans la vie, quand tu fais des migraines, tu utilises généralement tes deux doses de triptan, fait que tu sais, la dose initiale, puis 2 heures plus tard, c'est un soulagement partiel, ta deuxième dose, ben, tu viens de doubler le nombre de comprimés que tu prends à chaque fois, là. Fait que faut vraiment que ce soit par jour et non par dose.
Tu fais bien de le préciser, Nico.
Remarquez bien, il semble avoir une corrélation entre le risque de développer des céphalées d'abus médicamenteux puis la quantité, là, donc la espèce de dose cumulative à laquelle la personne est exposée, là, mais quand même, quand même. Fait que des chiffres à prendre avec une certaine nuance. Clairement, on peut pas dire à un patient qui a de plus en plus souvent mal à la tête, puis tout ça, de dire « Ah oh non, mais il n'y a aucun problème parce que vous êtes juste à 9 jours par mois, là. On fera rien avec ça. » Je pense pas que ce soit approprié. Fait que justement, bon, ces jours-là, puis le lien entre l'autre, on disait associé à la prise abusive d'analgésique, mais le diagnostic est quand même excessivement mou de tout ça, là. Puis on le voit en pratique, Isa, Oli, là, vous voulez voir comme moi, là. Au bout du compte, il n'y a aucune façon, au moment du diagnostic, du moins, d'être certain que c'est ça le problème. Parce que ben, ta condition de santé peut avoir changé ou. Ben, une autre raison dans ta vie X, Y, Z fait que t'as mal à la tête, là.
100%. Donc, on le confirme souvent a posteriori quand on aura essayé de faire un sevrage.
Fait que, tu sais, c'est un peu le concept de la poule ou l'œuf, là. Tu prends plus souvent des médicaments pour soulager ton mal de tête. OK. C'est-tu parce que la prise des médicaments cause tes maux de tête? C'est juste parce que t'as plus souvent mal à la tête pour une autre raison et donc tu prends plus de pilules? Fait que diagnostic qui est souvent mou, puis après, c'est dans la prise en charge avec le sevrage, comme tu dis, que là, des fois, on va pouvoir confirmer, entre guillemets, là, la situation. À noter que pour le moment, il n'y a pas les GPAN dans les listes de jours. Bon, j'imagine que les manufacturiers de GPAN nous diraient c'est parce qu'il n'existe pas de risque de céphalée d'abus médicamenteux avec ces molécules-là. Je sais pas. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. On se rappelle, là, dans l'épisode de traitement aigu, on avait parlé un peu, les études de GPAN principalement sont des études unidose. Donc, clairement pas suffisant pour voir si tu peux développer des céphalées d'abus médicamenteux. En même temps, tu en as parlé déjà, Oli, en migraine chronique, mais on va y revenir plus spécifiquement dans les prochaines minutes pour la céphalée d'abus médicamenteux. Les anti-CGRP font partie de nos options de traitement. Fait que ce serait un peu bizarre qu'une chose cause et traite la même affaire, j'imagine.
Ouais. Ça serait improbable. On n'a pas encore assez de recul, mais mettons, ça serait improbable que les GPAN causent des céphalées d'origine médicamenteuse autant que les autres, mettons.
Mais ça sera à suivre. Je pense que pour le moment, on ne peut pas confirmer quoi que ce soit.
En effet.
Fait que diagnostic un peu mou, diagnostic peu ou pas confirmable là, rapidement. Fait que, tu sais, si on parle de combien de gens sont touchés, c'est pas évident. Les chiffres se promènent beaucoup. On est probablement quelque part entre 1 et 2 % de la population. Puis on est probablement quelque part autour de 15 % des patients migraineux. Comme je disais, on n'est pas obligé d'être migraineux pour développer ça, mais clairement, c'est le patient typique,
là. Ça fait beaucoup de monde quand même.
Ben oui, certainement. Puis je dirais, c'est le premier défi pour les céphalées d'abus médicamenteux, c'est trouver ces gens-là.
Les identifier.
Ouais, parce que soyons clairs, là, je veux dire, de un, la personne elle-même, à moins qu'on ait fait un counseling qui a de l'allure quelque part dans le processus, elle, tout ce qu'elle fait, c'est essayer de se soulager. Elle a mal à la tête. Quand elle prend son médicament, elle se porte mieux, mais rapidement, elle recommence à avoir mal en tête, fait qu'elle en reprend. Je pense pas qu'elle, intuitivement, cette personne-là est censée faire le lien, là. Elle essaie de se faire du bien et pas de se créer des problèmes, là. Fait que ça nous rappelle l'importance d'en parler aux personnes à qui on prescrit des médicaments contre les céphalées. Je pense que c'est excessivement important de se rappeler ça. Qu'on soit médecin, qu'on soit pharmacien, au moment de prescrire, au moment de remettre un triptan, un IDNS ou je ne sais quoi pour des céphalées de tension, pour des migraines. Je pense que c'est super important d'emblée d'informer les patients de ce problème-là, de ce risque-là, là.
Puis de le questionner aussi là, dans notre quand on questionne pour par rapport à des céphalées qui sont fréquentes, de bien vérifier comment ces céphalées sont soulagées, mais comment les médications sont prises, à quelle fréquence, combien de fois par jour et combien de jours par mois, là, comme le critère que tu disais tantôt.
Absolument. Pas gêné pour aller voir les fréquences de renouvellement dans le DSQ aussi. Fait que bref. Soyons à l'affût puis informons nos patients. Je pense que c'est un élément clé à retenir aujourd'hui. Une fois qu'on trouve ces gens-là puis qu'on soupçonne une céphalée d'abus médicamenteux, qu'est-ce qu'on fait? L'étape numéro un, ben, leur faire un peu d'enseignement. Comme je dis, je pense que le patient moyen n'est pas conscient du tout qu'il est en train de se nuire, qu'il est en train de se causer un problème. Je pense que c'est juste de se soulager, tout simplement. Fait qu'enseignement aux patients. Mine de rien, on a des essais randomisés contrôlés sur l'efficacité juste de l'enseignement pour se débarrasser de ce problème-là. J'ai sorti il y a quelques publications, j'ai sorti celle que je trouvais la plus pertinente, là, une étude publiée un bout de temps en 2006, là, une étude où on a pris 188 personnes avec des céphalées d'abus médicamenteux, puis on les a randomisées à soit un counseling, plus bon, des traitements là, au besoin pour se soulager, soit un counseling avec une thérapie de pont de prednisone, on reviendra tantôt, puis un traitement prophylactique, ou soit un sevrage à l'interne. J'avoue que ça m'a étonné que ça existe comme concept. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou entendu ça quelque part. Moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se serait fait hospitaliser pour se sevrer de ses analgésiques de céphalie, mais en tout cas.
Moi non plus.
Apparemment, c'était un concept considéré à une certaine époque. Puis quand on regarde les résultats à 2 mois, environ 75 % des patients sont retombés en migraine épisodique, donc ont quitté la migraine chronique ou la céphalée d'abus médicamenteux, dans les 3 groupes.
Surprenant.
Fait que juste la partie counseling, juste la partie informer les patients qui sont en fait en train de nourrir leurs problèmes puis d'empirer leur situation, fait une grosse, grosse partie de la job. Fait que ne nous gênons pas. Une fois que ce counseling-là est fait, bien, dans le counseling, j'ajouterais quand même tout ce qui est effet rebond. Hein, parce que là, on s'entend, on parle d'essayer d'amener un patient qui consomme des analgésiques contre ses céphalées de façon fréquente. Il va falloir qu'il s'en débarrasse ou qu'il en diminue drastiquement la consommation. Puis là, bien, devinez qu'est-ce qui va arriver. Typiquement, bien, ils vont avoir mal à la tête. Puis quand on regarde la littérature, là, ça suggère vraiment des céphalées un peu rebond, de sevrage. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot. Mais bref, pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, les personnes risquent de rapporter une exacerbation de leurs maux de tête pour lesquels on va devoir limiter les traitements possibles. Au-delà du counseling sur la condition de santé, je pense que c'est important là, d'embarquer le patient dans le plan. Parce que c'est pas un plan qui est facile à mettre en place, puis un plan qui est facile à suivre. Parce qu'on s'entend, tu souffres, puis tu sais qu'il y a des pilules qui peuvent t'aider. C'est un peu contre-intuitif de torturer. Fait qu'une fois que ça c'est fait, puis que le patient est prêt à essayer, puis à embarquer dans le plan, ben l'étape numéro 2, c'est l'optimisation du traitement prophylactique. Fait que pendant de très, très, très nombreuses années, puis encore aujourd'hui, j'imagine, là, il existe un certain débat, là, ish, sur l'obligation de mettre en place ou d'optimiser un traitement prophylactique pour pouvoir faciliter le sevrage, la cessation, la diminution du traitement aigu. On a plusieurs études qui ont essayé de comparer différentes affaires. Là, j'ai sorti les études qui me paraissaient les plus pertinentes pour répondre à la question. En 2009, une étude randomisée contrôlée de un an sur, bon, juste 56 personnes qui souffraient de céphalées d'abus médicamenteux, où on a comparé seulement l'arrêt progressif là, ou subi des traitements aigus contre l'utilisation d'un traitement préventif concomitant. Puis, on a regardé un an ce qui se passait. En gros, clairement, plus de gens ont quitté, sont tombés en rémission, là, si on veut, fait qu'ils sont retombés avec des céphalées épisodiques, des migraines épisodiques. Dans le groupe, on a utilisé un traitement prophylactique avec un NNT de 4. Pas mauvais, quand même.
Très bon, très, très bon.
Fait que clairement, il peut avoir un bénéfice d'optimiser le traitement prophylactique de façon concomitante à se débarrasser du traitement aigu qui cause le problème. En 2020, dans le JAMA Neurology, on a sorti une étude de 102 personnes avec des céphalées d'abus médicamenteux qu'on a randomisées à soit, encore une fois, se débarrasser du traitement aigu avec un traitement prophylactique, soit un traitement prophylactique, mais sans conseiller fortement, je ne veux pas dire forcer, on dirait, là, mais en tout cas, vraiment mettre de l'avant le sevrage ou l'arrêt du traitement pharmacologique aigu. Fait que de voir juste... On ne fait rien avec les pilules problématiques, mais on fait juste rentrer un traitement préventif puis on regarde ce qui se passe. Puis finalement, l'utilisation d'un sevrage ou d'un arrêt seul, avec quand même la possibilité 2 mois plus tard de rentrer un traitement prophylactique, parce que là, on est en 2020, puis je l'ai dit dans des études antérieures, on a quand même montré un bénéfice au traitement préventif. À 6 mois dans cette étude-là, qu'est-ce qu'on a observé? Mais dans les deux groupes où on a utilisé un traitement préventif, les gens s'en sont mieux tirés, clairement, avec une rémission de leur céphalée chronique chez 75 et 60 % des gens, contre seulement 42 % des gens là, qui avaient que tenté de sevrer leur médicament aigu. Fait qu'encore une fois, traitement préventif, que ce soit d'emblée ou que ce soit un peu plus tard, il semble avoir un bénéfice, au moins à moyen et long terme, là, pour aider les patients à rester en rémission de migraine chronique.
C'est quand même des chiffres qui sont encourageants, je trouve.
Oui, effectivement. Hein? Il y a beaucoup de gens qui réussissent à sortir de ça. Puis dans tout, comme je dis, j'ai choisi quelques études, là, les plus grosses ou les plus parlantes, mais les chiffres sont effectivement très bons. Le pronostic, une fois qu'il y a une prise en charge, un counseling, puis tout ça, là, il est quand même très bon. C'est rassurant pour nos patients. Plus récemment, on a nos fameux anti-CGRP qui ont été évalués vraiment dans cette niche précise-là. Fait qu'on s'entend dans les études de migraine chronique dont tu as parlé, Oli, on l'a dit, il y a plein de patients, probablement que leur problème, c'était des céphalées d'abus médicamenteux, puis il y a des sous-analyses même qui ont été publiées dans certains cas, puis au bout du compte, ça a l'air de fonctionner de la même façon que ce soit une migraine chronique pure, je ne sais pas comment appeler ça, ou un problème d'abus médicamenteux. Mais dans le cas de l'irinumab, on a une étude qui est sortie en 2024, dans le JAMA Neurology aussi, une étude de 524 personnes, quand même une grosse population là, pour une population atteinte de céphalée d'abus médicamenteux, qui a été randomisée à de l'irinumab, soit 70 ou 140 mg par mois, ou un placebo, et suivie pendant 6 mois. Fait qu'on a juste rentré l'irinumab, puis on a regardé ce qui se passait. Il pouvait avoir évidemment là, un counseling, puis tout ça, mais il n'y avait pas d'autres interventions pharmacologiques. Puis à 6 mois, 60 et 69 % des gens avec l'irinumab ont atteint une rémission, contre 53% dans le groupe placebo, ce qui se donne un NNT de 7. Puis encore une fois, ça rejoint ce que tu as dit, Isel. On le voit même dans le groupe placebo, 53% des gens qui s'en sont sortis. Fait un pronostic intéressant, juste à cause de la prise en charge, tout simplement. Fait que, bref, l'utilisation d'un traitement prophylactique semble avoir sa place dans la prise en charge des céphalées d'abus médicamenteux.
Avec là, les données que tu viens de nous présenter, c'est quand même assez convaincant.
Ouais. Puis juste pour ne pas créer de confusion, là, parce qu'au début, on a dit qu'on peut avoir des céphalées d'origine médicamenteuse ou d'abus médicamenteux sur des céphalées primaires de type migraine, mais aussi, par exemple, de type tensionnel. Je répète, là, clairement, la majorité des gens touchés ici, là, on est dans le domaine de la migraine. Étape numéro 3, la possibilité d'utiliser une thérapie de pont pour aider au fameux sevrage. Fait que là, à un moment donné, on s'entend, l'objectif, il en reste que c'est la personne aille moins souvent mal à la tête et qu'elle prenne moins souvent ses traitements pharmacologiques aigus. Sinon, on s'en va nulle part. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que la personne diminue ou arrête son traitement aigu. Fait que ça, ben, les deux options sont possibles. Évidemment, ça dépend du médicament avec lequel on a un enjeu. Là. C'est sûr que si c'est un opioïde et qui est pris de façon très, très régulière, on ne va pas vouloir le cesser abruptement parce que là, on va se créer bien d'autres problèmes, on s'entend. Mais pour un triptan, pour un AINS ou je ne sais pas quoi, là, il ne semble pas avoir d'enjeu à cesser abruptement le traitement d'aucune façon. Puis là, ben, y a des gens qui se sont dit à un moment donné, OK, clairement, on le sait, nos patients, dans les premiers jours, premières semaines, vont avoir plus mal à la tête, ça va être souffrant, ça va être difficile. Peut-être qu'on pourrait leur donner une thérapie de pont, leur donner une espèce de traitement régulier à court terme pour essayer d'atténuer cette espèce d'effet de sevrage-là. Fait qu'il y a eu plusieurs études sur le sujet. Il y en a eu quelques-unes avec notamment des corticostéroïdes. Ce que j'ai trouvé plus récent, c'est une méta-analyse de 2017 où on avait 4 études randomisées contrôlées de cortico contre placebo contre AINS. Puis malheureusement, ça ne semblait pas donner grand-chose, on veut dire. Puis c'était quand même des bonnes doses de cortico, là, des affaires genre prednisone 60 mg.
Oh, quand même.
Qui amène quand même d'autres enjeux. Là. C'est pas bénin en termes d'effets indésirables potentiels. Fait que peu vendeur. Il y a aussi des données avec les AINS. Fait que, tu sais, l'idée, ça serait de dire, mettons, là, tu as un patient qui a des céphalées d'abus médicamenteux sur triptan. OK, on arrête les triptans du jour au lendemain. Au revoir. On le sait, le patient va avoir beaucoup mal à la tête probablement dans les prochains jours. Fait qu'on va lui donner un AINS, probablement un truc longue action quand même, genre un naproxène ou un célicoxib, 2 fois par jour, peu importe comment le patient en va, pendant plusieurs jours, le temps d'essayer de couvrir cette espèce de période plus difficile-là. Les données sont pas très bonne, là. J'ai pas trouvé de vrais essais randomisés contrôlés en bonne et due forme. Mais c'est quelque chose qui existe dans la littérature. Peut-être pour un patient, notamment, chez qui on a eu des tentatives antérieures, puis ça a été un échec parce que ça a été trop difficile, puis tout ça, davantage à considérer. J'ai pas trouvé de données assez solides qui me convainquent que c'est une bonne idée de mettre ça d'emblée de façon systématique pantoute.
Là, tu parlais par exemple des patients qui prenaient des triptans, mais chez un patient qui prendrait déjà des AINS.
Ouais, fait que là, ça amène un peu l'étape 4, c'est-à-dire, mine de rien, si on fait juste dire à quelqu'un, bon, fait que là, tu as mal à la tête presque tous les jours, quand tu prends un triptan ou un AINS ou je ne sais quoi, ça te fait du bien, mais pas longtemps, fait que tu en reprends tout le temps. Bien là, à partir de demain, tu n'as plus le droit d'en prendre. Bonne chance! Fait que oui, on a le droit quand même d'offrir à ces patients-là des traitements pharmacologiques aigus, parce qu'à un moment donné, le but, c'est pas non plus de les torturer. Là. Fait que généralement, puis là, ça, j'ai pas d'études randomisées contrôlées ou rien là-dessus, là, mais généralement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser un traitement pharmacologique différent de celui qui est en cause des céphalées d'abus médicamenteux. Fait que si, par exemple, le patient a ses céphalées d'origine médicamenteuse sur triptan, ben, il donnait un AINS, ou maintenant, j'imagine, on pourrait considérer un GEPAN, ou dans toutes les directions possibles. Là. Des fois, il n'y a peut-être pas d'options alternatives pour différentes raisons, allergies, contre-indications, intolérance, je ne sais pas quoi. Là. Fait que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais oui, pour répondre à ta question, idéalement, on va essayer d'utiliser un agent d'une classe pharmacologique différente.
Parfait.
Puis là, ben, après ça, on se donne un peu de temps, puis on regarde ce qui se passe. La littérature n'est pas claire sur combien de temps ça prend exactement en moyenne à revenir à son état de base. Parce que c'est ça l'objectif, hein, qu'on se rappelle bien. Le but n'est pas que le patient n'ait plus mal à la tête. C'est des gens qui ont des céphalées primaires en dessous de ça. Fait que l'objectif est de les ramener à leur état avant. Leur état où il y avait juste leur céphalée primaire de façon épisodique. On est quelque part, probablement, quand on regarde les études, là, entre 2 et 8 semaines, je dirais. Visiblement, il y a une variabilité inter-individuelle importante, là, mais juste pour donner un ordre de grandeur un petit peu, ça peut prendre du temps. Là. Fait que faut parfois être patient, malheureusement. A priori, le début est la période la plus dure, mais avant de vraiment réussir à retourner à un état de base, ça peut prendre un certain temps. Fait que je ne sais pas, ça sonne-tu clair comme prise en charge? Si je résume, 1, renseigner les patients lors d'une prescription de traitement pharmacologique aigu, je pense que c'est important. 2, porter attention aux patients, c'est-à-dire en termes de quantité, de fréquence de céphalée, de fréquence de renouvellement médicamenteux pour essayer de trouver ces gens-là qui essayent juste de se soulager. Une fois qu'on les a trouvés, le counseling, qui est probablement la partie la plus importante quand on regarde les résultats d'études de juste avec le counseling, on a beaucoup de gens qui s'en sortent. Ensuite de ça, si c'est possible, si le patient est ouvert, l'optimisation du traitement prophylactique. Plusieurs agents sont possibles. On essaye probablement de s'en tenir aux agents dont tu as parlé, Oli, en migraine chronique, si on est capable, parce qu'on le dit dans ces études-là, il y a plein de gens avec des problèmes d'abus médicamenteux. Mm-hmm. Ensuite de ça, ben, on essaie de se débarrasser du traitement pharmacologique en cause. Il y a la possibilité, mais vraiment pas basée sur grand-chose d'intéressant d'un point de vue scientifique, d'une thérapie de pompe, fait probablement réservée à des cas particuliers. Puis finalement, bien, offrir un autre traitement aux besoins pour soulager les maux de tête quand c'est nécessaire, parce que comme on a dit, le but, c'est pas de torturer les patients non plus.
C'est une prise en charge qui est somme toute assez facile pour le clinicien, mais difficile pour les patients.
Ouais, ben, tu sais, je sais pas, là, on a quand même un peu tous de l'expérience là-dedans. Puis moi, je trouve que c'est un domaine pour lequel, surtout en début de plan de match, ça nécessite quand même des suivis relativement serrés. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas évident pour les patients, comme tu dis. Fait que c'est quand même, je trouve, une condition pour laquelle ça prend des ressources. Je pense que c'est un bon domaine pour lequel on veut utiliser probablement une équipe interdisciplinaire. Fait que c'est simple, mais quand même exigeant, je dirais.
Mm-hmm. Bien, c'est sûr que si on lâche le patient à pas de suivi, puis on se le revoit 2 mois plus tard, les chances de succès sont probablement pas si élevées que ça.
Merci, c'est tough, là, je veux dire, le patient, on lui demande un peu, il va falloir qu'il souffre dans le processus à un moment donné. Là.
Ah oui, clairement.
Oui, c'est inconfortable, ça, exact. C'est évident. Ouais. Exact.
Sinon, ben, j'ai essayé de regarder, là, il y a quand même quelques données là, avec différentes mesures non pharmacologiques, des trucs avec, par exemple, la méditation pleine conscience, l'acupuncture, le biofeedback. Bon, des données d'envergure limitée, mais quand même des données positives. Notamment, j'ai été impressionné de voir ça. Il y a une étude randomisée contrôlée qui est sortie en 2023 sur l'utilisation de la méditation pleine conscience chez presque 200 participants souffrant de céphalées d'abus médicamenteux. Là, puis c'était l'idée d'ajouter, dans le fond, la méditation pleine conscience au traitement habituel avec des résultats positifs là, puis des chiffres qui ne sont pas inintéressants. C'est sûr qu'après ça, bon, vous le devinerez, là, dans les études, c'est un peu comme dans les études d'obésité puis de plein d'autres affaires. Il y avait beaucoup de ressources, là, fait que c'était pas juste une application sur leur téléphone intelligent, puis les gens faisaient ça à la maison. Là, il y avait des séances avec un coach, puis tu sais, quelque chose qui demande quand même beaucoup de ressources. Mais bref, on peut probablement venir bonifier notre offre avec certaines mesures non pharmacologiques si ça intéresse le patient.
Super.
Je pense que ça fait le tour sur ce qu'on voulait jaser en termes de migraines dans cette série d'épisodes.
Ouh!
Y a-t-il quelque chose qu'on voulait rajouter?
On arrive à la fin.
Je pense pas qu'on a rien oublié.
Puis dis-moi donc, Isa, toi là, qui étais tant. Je sais pas c'est quoi le bon mot. Là.
Intimidé.
Intimidé, ouais, par le sujet de la migraine. Tu dirais-tu que tu te sens moins intimidé par la migraine maintenant?
Oui.
Hé, c'était pas convaincant, ça.
Et je suis pas complètement confortable, tu sais, comme je pourrais pas redonner. Tu sais, je pourrais pas vous faire un résumé. Là, si tu me demandais de faire le résumé de la fin, là, non, j'y arriverais pas.
Bon, mais je vais enlever ça de ma liste ici. Ça, on oublie ça.
Je retire ça. Mais quand même, ça a fait un bon tour. Je pense que le traitement aigu, c'était déjà comme j'étais déjà plus confortable. C'est dans le traitement. L'épisode 2, là, tu sais, que je disais que ça va un peu dans tous les sens. Mais dans le fond, je retiens que on a plein de choix qui sont à peu près tous égaux en termes d'efficacité. Fait qu'après ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui peut être utile avec les autres comorbidités du patient. Puis sinon, ben, y aller avec une décision partagée. Fait que oui, je suis quand même plus confortable.
Bon.
Tu viens de faire un beau mot de la fin, moi, je trouve. Tu disais que tu pouvais pas nous faire un résumé.
Ouais, ben là, c'est un résumé grossier, là, on s'entend.
Ben, moi, je donnerais au moins 4 étoiles.
Bon, 4 étoiles, c'est quand même pas pire. Tantôt, c'est quoi
L'étude
qui
t'a
avait
prouvé qu'il
6,
était pas. J'étais 6
ouais?
puis
Non, mais c'est
Toi,
pas la
t'es pas
même
très
échelle, là.
enthousiaste, là.
Non, mais c'est pas la même échelle, les noms d'études, là, puis les performances d'ISA, là. Voyons, voyons.
là là.
Bon, ben sur ce, petit message habituel, si vous avez des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires, juste communiquer avec Olivier. Autrement, ben, on se reparle bientôt.
Parfait, salut!
Ciao, ciao!
Bye là!
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.